Seigneur soit avec vous
et avec ton esprit.
Évangile selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, pour que le jour où il viendra vous manquer, il vous reçoive dans les demeures éternelles. Qui est fidèle pour de très petites choses, est fidèle aussi pour les grandes. Et qui est malhonnête pour de très petites choses, est malhonnête aussi pour les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle pour l'argent malhonnête, le bien véritable qui vous le confiera. Et si vous n'avez pas été fidèle pour le bien qui vous est étranger, le vôtre qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et ne tiendra pas compte de l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aimaient l'argent entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Il leur dit, « Vous autres, vous êtes gens qui se donnent comme justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes prisent très fort est objet de dégoût aux yeux de Dieu. » Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Ces textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre m'ont conduit à me poser deux questions. La première, comment doit se comporter un bon trésorier? Deuxième question, est-ce que l'argent aux yeux du Seigneur est toujours malhonnête? Il est relativement facile de répondre à la première question, puisque Jésus lui-même le dit. Il faut que le trésorier ou l'intendant soit digne de confiance. En réalité, comme vous l'avez remarqué, ce morceau d'évangile fait suite à celui que nous avons entendu hier. Il était question hier, on s'en souvient, d'un gérant malhonnête qui avait été accusé à juste titre de gaspiller les biens de son maître et qui, pour se sortir de cette impasse, cette triste situation, avait réduit les dettes de plusieurs des débiteurs de son patron. De cette façon, il s'était dit, je vais me faire des amis qui pourront m'accueillir lorsque je serai renvoyé, parce que de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Et de manière surprenante, le maître avait lui-même fait l'éloge de la conduite de ce mauvais serviteur. Bien sûr, le maître ne louait pas sa malhonnêteté. Il l'admirait pour son habileté. Alors la conclusion que donnait Jésus à cette parabole, on s'en souvient, était « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Le début du morceau d'évangile que nous venons d'entendre fait immédiatement donc suite à cette phrase. Le Seigneur recommande à ses disciples de se faire des amis avec l'argent trompeur ou l'argent malhonnête, car prévient-il le jour où l'argent n'y en aura plus, l'argent ne sera plus là, dit le Seigneur, ou bien ses amis vous accueilleront là où vous espérez aller, c'est-à-dire dans les demeures éternelles. Au fond, Jésus nous dit, L'argent, c'est pas grand-chose. Mais si avec ce pas grand-chose, on se fait des amis pour le monde à venir, alors Dieu lui-même vous accueillera dans sa maison, dans les demeures éternelles. Ainsi, par une argumentation qui peut nous paraître tout à fait étonnante, le Seigneur parvient à placer devant les yeux de ses disciples et devant les nôtres l'importance de rechercher le bien véritable, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le bonheur dans le royaume. Et il embraye aussitôt sur l'attitude qu'il nous faut avoir vis-à-vis de l'argent. Car, dit Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres. Alors si, comme on essaie de le faire, nous tous, essayons de nous placer dans le sillage de l'époux de Dame Pauvreté, nous ne pouvons pas être très surpris par cet avertissement. On se souvient des paroles de Saint François à propos de l'argent. Et nous comprenons qu'il est très facile, si on n'y prend pas garde, de laisser les démons nous séduire avec cette idole de notre monde qui est l'argent. Une idole dont nous avons l'impression qu'elle est servie par tant et tant de personnes ici et là dans le monde entier. Alors, deuxième question, l'argent est-il toujours malhonnête ? Il l'est sûrement quand on cherche, comme l'intendant qui triche, à tromper son prochain, à le gruger. Mais il l'est aussi, et c'est plus subtil si on peut dire, par la séduction que le diable peut opérer à travers lui. Et aussi nous empêcher, même si nous nous croyons des bons chrétiens, de vivre dans le royaume. C'est ce qui se passe avec les pharisiens qui sont interpellés par Jésus à la fin du texte. Ils sont coupables d'un double forfait. Premièrement, ils osent se moquer de l'envoyé de Dieu, du Fils de Dieu, ils se moquent de lui, parce que pour eux, l'argent, c'est un signe de réussite dans le monde juif où ils sont. Et donc, faut se moquer des gens qui pensent que l'argent, c'est pas bon. Et deuxièmement, en plus de ça, ils se croient justes, parce qu'ils se soucient d'appliquer à la lettre le moindre détail de la loi de Moïse. Et qu'en fait, de cette manière, non seulement ils essaient de cacher la noirceur de leurs âmes, mais aussi de se pavaner avec le prestige que peut donner la richesse et le pouvoir. Le Seigneur leur révèle que Dieu n'est pas dupe de leur hypocrisie. Il connaît, dit Jésus, les secrets du cœur. Et il n'a aucun intérêt pour ce qui donne du prestige. Jésus dit même que ce qui donne du prestige est abominable. La traduction, nous avons entendu, objet de dégoût. On peut traduire aussi, comme dans le lectionnaire officiel, abominable aux yeux de Dieu. Alors le premier texte, le passage de la lettre aux Romains, qui est la finale de la lettre aux Romains, nous décrit en quelque sorte l'autre genre de conduite que celle des pharisiens, la conduite qu'en fait le Seigneur recommande. Il nous montre une communauté de Rome saisie par l'amour du Christ, comme il est lui-même saisi par l'amour du Christ. Saint Paul leur demande de transmettre son salut fraternel à tous les frères et sœurs qui lui ont manifesté par leur conduite ce qu'était le véritable amour des frères et le véritable attachement au Christ. Il y a en premier ce couple, Saint Paul aimait particulièrement Priscille et Aquila, qui ont été jusqu'à risquer leur propre vie pour lui, pour le sauver la sienne, et pas seulement la sienne, puisque une église se réunit dans leur maison, dans leur propre maison, l'a entendu. L'église qui est dans leur maison. Puis il y a une sorte de pionnier de l'évangile, Épénète, qui a été le premier à croire au Christ dans la province de l'Asie, immense. Puis il y a encore une certaine Marie qui s'est donné beaucoup de mal pour la communauté. Il y a des membres du peuple juif, donc les frères de race, dit Paul, qui l'ont accompagné dans sa captivité et qu'il qualifie même du titre d'apôtre, apôtre bien connu. Des apôtres dont Paul reconnaît humblement qu'ils ont appartenu au Christ avant lui. Il y a tous ses compagnons de travail, Timothée, les autres. Et non seulement il recommande à tous ses frères et sœurs à la gratitude, tous ses frères et sœurs-là à la gratitude de la communauté, mais il transmet aux Romains les saluts très fraternels de toutes les églises, dit-il. Il a même cité le nom d'un trésorier, le trésorier de la ville, Éraste. Et pour finir, il les recommande tous à celui qui, par la bonne nouvelle qui est venue nous apporter, est le seul sage, la sagesse même de Dieu, le Christ, à qui il rend grâce avec eux, toutes les personnes et toutes les communautés. Il rend grâce. Eh bien, rendons grâce en cette Eucharistie pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ont marqué notre vie, qui l'ont orienté vers le Christ, qui l'ont mise en route à la suite du Christ. Amen.